Et nous accueillons Hugo au 3921. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous nous appelez d'où, Hugo ?
De Marseille.
De Marseille. On s'est déjà parlé, il me semble que votre voix me dit quelque chose.
Oui, exactement. On s'était parlé il y a quelques mois, pareil, pendant le confinement.
Pendant le confinement, d'accord.
Exactement.
D'accord. Comment allez-vous depuis ce confinement où on avait évoqué toutes les problématiques que vous traversiez, hein, vous, personnel hospitalier, médecin, interne et plus au niveau du matériel à l'époque. Comment ça se passe ? Est-ce que la situation s'est améliorée là ? Et puis on va parler de la situation actuelle et à venir, bien évidemment.
Oui, alors, comme vous disiez, moi, je suis interne à Marseille dans le service des maladies infectieuses. Et comme on en avait discuté pendant le confinement, il y a eu pas mal de changements depuis, notamment au niveau de la réorganisation des soins. Autant pendant le confinement, tout avait été un petit peu mis en stand-by, les opérations, tout ce qui était programmé, et on avait dû tout reprogrammer pour plus tard. Là, on a essayé, à travers l'organisation de l'hôpital, de ne pas refaire les mêmes erreurs que pendant la crise de mars.
Oui.
C'est-à-dire que tout ce qui avait été programmé, notamment les opérations, pour les cancers, on a essayé de le maintenir et de canaliser la nouvelle vague qui était en train d'arriver. Et pour l'instant, c'est plutôt en train de fonctionner, même si c'est vrai que là, depuis quand même une semaine, il y a eu une forte augmentation des hospitalisations et des passages en réanimation. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tout récent, donc on n'a pas encore le recul suffisant pour dire si ça va aller vers les mêmes standards que ceux de mars, ou est-ce que c'est quelque chose qui va repartir comme ça l'était il y a un mois, c'est-à-dire que depuis juillet, c'est assez fluctuant cette augmentation d'hospitalisation. Ça a tendance à monter le temps d'une semaine, puis la semaine d'après, ça redescend, ça réaugmente, ça ondule. Et là, c'est vrai que depuis une semaine, on a quand même l'impression que c'est plus croissant qu'avant et il n'y a pas vraiment de phase de décrochage comme il y avait jusque-là. Donc, ça va être un petit peu la question qui va se poser ces prochaines semaines.
Quel est le moral des troupes ? Parce qu'on s'inquiète régulièrement du moral des personnels soignants qui, on le sait, est sorti éreinté de cette période.
C'est exactement la problématique là qui se pose, notamment au niveau des personnels infirmiers, des aides-soignants que je peux côtoyer, que j'ai la chance de côtoyer et qui sont, je trouve, assez fatigués de la première vague, qui n'ont pas vraiment été entendus par le gouvernement au moment du Ségur de la santé. Beaucoup de réformes, de promesses avaient été faites et je pense qu'elles n'ont pas été tenues. Je pense notamment pour leur libérer du temps, pour qu'ils se reposent, pour leur augmenter leur salaire, qui mérite davantage. Et ça n'a pas été vraiment tenu. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que beaucoup de personnels soignants ont tendance à arrêter leur métier et à se reconvertir. Là, depuis la recrudescence des cas, comme si voilà, le fait qu'ils s'étaient donnés pendant plusieurs mois, là, ils ne pouvaient plus se permettre de le faire sous peine finalement de s'abîmer leur propre santé. C'est un peu un comble pour un soignant de perdre sa santé à trop vouloir aider celle des autres.
Oui, donc, complètement.
C'est ce qui se passe actuellement.
Mm-hmm. On entend beaucoup de choses en ce moment, Hugo.
Oui.
Notamment en région parisienne, où on avance le chiffre de 60% du taux d'occupation des lits en réanimation. Est-ce qu'il est réel, ce taux ? Est-ce qu'il correspond à celui que vous connaissez, vous, à Marseille ? Parce que c'est tout de même un chiffre assez alarmant, non ?
Oui, non, c'est vrai. Pour le coup, on a des standards à peu près similaires à Marseille. J'étais de garde hier soir dans un service de Covid. Et c'est vrai que pour parler aux réanimateurs, assez souvent, ils me confirment cette information qu'ils sont vraiment très limites au niveau des places. Et jusque-là, ils arrivent à quand même récupérer la plupart des patients. Mais malheureusement, quand les patients sont très âgés, qu'ils ont des antécédents importants, malheureusement, ils sont obligés de prioriser les patients plus jeunes, les patients qui sont qui qui vont être en capacité de passer en réanimation et de tenir sur la durée plutôt que des patients âgés. Et c'est vrai que actuellement j'ai quelques décès à déplorer. C'est quand même des patients qui sont majoritairement de plus de 80-85 ans. C'est rare en dessous. C'est des patients qui, je pense, seraient morts avec un autre virus. Hein. Je ne pense pas que ce soit que le coronavirus qui puisse entraîner des décès comme ça. La grippe qui va arriver là dans les prochaines semaines peut tout aussi bien entraîner des décès. Mais c'est vrai qu'on a quand même ce problème de lits de réanimation qui a tendance à être assez court. Et ça, c'est vraiment depuis une semaine, 10 jours qu'on le ressent. Autant il y a un mois, je n'aurais pas dit ça parce que j'arrivais à placer des patients beaucoup plus âgés en réanimation. C'était beaucoup plus, libre. Là, on sent que depuis une semaine, c'est très tendu et il faut envoyer des patients parfois dans d'autres villes pour permettre qu'ils soient pris en charge de manière appropriée. Mais voilà, c'est assez tendu et je pense que ça confirme ce que disaient les réanimations de Paris.
Vous êtes à Marseille, on entend beaucoup de choses, hein. Vous le savez, nous à Paris et puis la France entière entend beaucoup de choses de Marseille parce que vous avez une figure emblématique là-bas de la recherche, de la médecine. Et bien évidemment, il y a tout un tas de bruits qui vont dans un sens et puis dans l'autre concernant le professeur Raoult et la politique de santé qu'il a mise en place. Depuis l'apparition de ce Covid, finalement, Marseille ne souffre pas plus que certains endroits comme Paris.
Non, il n'y a vraiment pas de différence au niveau de la gravité du Covid entre Paris et Marseille. C'est plutôt similaire. Après, c'est vrai que la politique est différente. Je ne sais pas si elle est meilleure ici ou elle est meilleure à Paris. Ça, c'est toujours difficile pour moi de juger parce que je ne suis pas très objectif. Mais clairement, il y a un choix qui a été fait à Marseille de voir tout le monde, quel que soit son âge, quelles que soient ses maladies précédentes. Voilà, c'est de voir tout le monde en consultation, ce que je fais, que je ferai encore demain d'ailleurs. Et on voit en fonction du taux de saturation d'oxygène, de la capacité de respiration, si les patients sont ou non en capacité de revenir à la maison ou s'ils doivent être hospitalisés à l'IHU, donc le service d'infectiologie. Là, de plus en plus, d'ailleurs, on a du mal à capter l'arrivée de nouveaux patients parce que c'est de plus en plus important, le nombre d'hospitalisations. Mais voilà, de là à savoir si il vaut mieux faire comme le dit le gouvernement, c'est-à-dire ne se déplacer que si on a un problème de respiration ou est-ce que toute personne qui est positive doit se présenter? Voilà, je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux. Et ça, c'est pas forcément à moi de le dire parce que je suis encore un jeune interne, donc j'ai pas vraiment un recul assez important pour me positionner sur ce genre de politique.
Mais vous avez tout de même, Hugo, le vécu. Et nous, citoyens, on se pose beaucoup de questions parce que finalement, ce qui arrive même dans les rédactions, ça arrive aussi souvent par le biais de la communication du gouvernement ou des politiques. Oui. Donc, vous savez qu'il y a une confiance assez mitigée dans toutes les infos qui arrivent dans les foyers français. C'est même par tradition. Ça. On a l'impression, comme ça, là, au 22 octobre, on est bientôt le 23, dans 19 minutes, mais au 22 octobre, il y a plus de malades autour de nous. En tout cas, moi, je constate, et mes collaborateurs aussi, constatent qu'autour d'eux, il y a beaucoup plus de malades du Covid qu'au mois de mars. Mais sous une forme, alors visiblement moins dangereuse, mais enfin assez costaud quand même. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si ça, c'est une tendance aussi que vous remarquez, vous ?
Oui. Par rapport à mars, où justement il y avait quand même beaucoup plus de morts qu'actuellement, et des personnes plus jeunes que celles qui décèdent actuellement, on a quand même un virus qui est moins virulent, qui est contagieux à peu près de la même manière, mais qui est quand même moins virulent et qui a tendance à moins agresser les poumons qu'avant. Et surtout, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ajoute par rapport à mars, c'est qu'on connaît davantage le virus. Et les réanimateurs qui sont un des principaux maillons de la chaîne pour sauver les patients savent beaucoup mieux comment gérer le virus. Ils ont appris de leurs expériences et justement, entre le fait que le virus soit moins virulent et le fait qu'on le connaisse davantage, ces deux paramètres-là ont permis qu'il y ait quand même beaucoup moins de morts. Donc le fait de dire qu'il y ait plus de personnes qui ont le virus, qui sont contaminées, c'est une chose, mais après, il faut voir aussi le nombre d'hospitalisés et le nombre de passages en réanimation. Et ça, c'est beaucoup moins important qu'en mars. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout dans les mêmes critères que mars, où on avait des nombres d'hospitalisations en réa qui explosaient, et vraiment, pour le coup, il y avait beaucoup de patients qui ne pouvaient pas aller en réa parce qu'il n'y avait plus de place. Donc c'est pas encore comme en mars. Je ne sais pas si ça va le devenir, j'espère pas.
Ça peut le devenir ou pas, parce que cet après-midi encore, l'assistante d'un dentiste me disait que son meilleur ami de 38 ans, qui ne fume pas, qui est très sportif, qui ne boit pas, était en réanimation pour insuffisance respiratoire. Ce qui veut dire tout de même que ce virus reste assez virulent, assez dangereux.
Oui, alors après, c'est vrai que les personnes jeunes, voilà, bon, je ne vais pas donner forcément d'âge, mais moins de 70 ans, qui n'ont pas de maladie, c'est plutôt rare qu'ils fassent une forme grave. Les patients de 40-50 ans qui font des formes graves, ils ont souvent des maladies associées, comme par exemple l'obésité, l'hypertension, des choses qui font augmenter le risque de formes sévères. Mais c'est très rare. Moi, sincèrement, j'en ai jamais vu de patients de moins de 50 ans qui n'avaient pas ces maladies-là.
D'accord.
Et chaque fois que des patients qui s'en sont sortis, même ceux qui avaient des maladies associées hein, de 50 ans, j'ai pas vu une seule personne mourir moi qui avait moins de 60 ans. Donc c'est quand même, voilà, ça c'est plutôt un facteur qui est rassurant, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses de la part du gouvernement qui sont assez alarmantes.
C'est assez anxiogène. Après, oui. vu le nombre de malades comme ça autour de nous, bon, on peut se dire que les prises de position du gouvernement semblent être raccord, mais c'est assez anxiogène de voir qu'on parle même déjà d'un couvre-feu à 19h. Donc c'est voilà, le gouvernement est inquiet, lui en tout cas.
Oui, il est inquiet et je pense qu'il a tendance parfois à surréagir. Enfin, c'est un peu le propre de certains politiques qui prennent des décisions sans forcément se concerter avec des scientifiques, des médecins. On l'a vu par rapport aux masques imposés dans la rue en permanence. Enfin, là, il n'y a clairement aucune étude scientifique qui montre que ça marche dans la prévention des contaminations par le coronavirus. Mmh. Et pourtant, ça a été mis en place par le gouvernement. Je ne dis pas ça a été mis en place, il faut l'accepter et le faire, mais ce n'est pas quelque chose qui a été dit et conseillé par des scientifiques, parce que ça ne repose sur rien.
Mmh,
et voilà, c'est le genre de choses où finalement le gouvernement a tendance à beaucoup réagir pour, comme ça, ne pas être, je pense, inquiété si ça venait à mal tourner dans les prochains mois. Je pense qu'il y a plus de principes de précaution que de réelles certitudes sur ce qu'ils font à propos de la prévention et du risque de contamination.
Mmh.
Mais après, le couvre-feu à 19h plutôt que 21h, trop en quoi ça va changer grand-chose. Moi, je pense que parfois, le remède est pire que le mal. C'est le cas de cette privation des libertés qui est en train d'instaurer progressivement le gouvernement. Je ne pense pas que ça va vraiment freiner la contamination. On a très bien vu à Marseille, quand il y a eu les restaurants qui ont fermé, il y a un mois, c'était la seule ville de France où les restaurants ont fermé. Nous, à l'IHU, on a vu le nombre de contaminations exploser dans les deux semaines après la fermeture.
Ah oui.
Donc, ce n'est pas quelque chose qui était logique. Et pourtant, clairement, ça a eu l'effet inverse, ça a fait augmenter le nombre de contaminations. Donc soit les gens se sont réunis à domicile, mais je ne pense pas que ce soit seulement ça qui ait vraiment participé, soit ça veut dire qu'on ne comprend pas tout de ce virus et qu'on veut se l'expliquer en se disant qu'on maintient les gens à la maison et forcément il n'y aura pas de contamination, mais on ne peut pas, je dirais, priver les gens de liberté, ça a ses limites, et ça crée, je pense, des problèmes de dépression, parce que le lien social est primordial chez les humains, donc les empêcher de se voir entre eux, pour moi, ça n'a pas de sens. ça ne peut que entraîner, engendrer des problèmes qui vont finalement être pires peut-être que le coronavirus. Donc c'est, on le voit chez les personnes âgées notamment. Ouais, quand on les empêchait de voir leur famille, c'était gravissime. Quand on empêchait aussi les personnes, la famille d'aller voir les défunts, c'est gravissime. Enfin, c'est des choses qui, pour moi, ne sont la limite de tout ce qui est hygiénisme, tout ce qui est théorie qui est détachée des réalités. C'est que ça fait souffrir des personnes, des milliers de personnes, et ça ne permet même pas de contrôler la contamination et la propagation du virus. Donc, c'est le problème, je pense, de certains personnes au gouvernement qui ont tendance à vouloir tout contrôler, à vouloir instaurer une forme d'hygiénisme. Et le problème de l'hygiénisme, quand il est poussé à outrance, ben, c'est qu'il devient finalement une petite forme de dictature. Et c'est ça qui, moi, m'inquiète et qui me fait me ressentir un petit peu un sentiment d'anxiété quand je me déplace dans la rue, parce que j'ai l'impression qu'on est épié, que si on porte mal le masque, on est épié, qu'il y a une forme de délation qui se crée à travers la société. Enfin, c'est un climat qui est très particulier, je trouve.
Deux questions, pendant que je vous ai à l'antenne, deux questions qui reviennent régulièrement dans les conversations et qui vont peut-être vous faire sourire. Hein. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, entre, je dirais, la difficulté des Français à croire en toutes les informations qu'on nous délivre, on ne connaît toujours pas l'origine de ce virus. Alors, entre le laboratoire chinois ou entre le marché où il y aurait eu un mélange d'eau sale, d'animaux morts. Est-ce qu'on a une idée précise aujourd'hui de la constitution de ce virus, en tout cas de son origine? Parce qu'on dit aussi que s'il a été fabriqué dans un laboratoire, il a une écriture. Alors, je crois que vous définissez les virus, vous, avec une succession de signes pour le définir. On sait d'où il vient, ce virus, définitivement?
Je pense qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas encore d'où il vient. De là à se dire qu'il a été créé par l'homme, il y a quand même un pas à franchir. Parce que si vraiment la Chine avait créé un virus comme celui-là, je trouve que c'est assez inconscient de le créer et de faire des expérimentations sur son propre sol. C'est parce que c'est des choses qui peuvent potentiellement dégénérer et créer justement une pandémie. Et donc sur leur propre sol, c'est un peu, je trouve, inconscient de le faire. Alors après, de là à dire que c'est sûr qu'ils ne sont pas impliqués dans cette propagation, on ne peut pas le dire à 100%, mais c'est toujours difficile de tirer des conclusions en disant voilà, les Chinois l'ont fait ou l'ont pas fait. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé spontanément? Moi, je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne saura peut-être un jour, mais il y a des fois, il faut accepter que la nature, les virus se créent et partent comme ça sans vraiment qu'on sache pourquoi.
Sauf que c'est alors ça n'est pas la première pandémie que nous connaissons, mais une pandémie de cette dimension, c'est tout de même, en tout cas moi je n'en ai pas connu une comme ça.
Moi non plus.
mon pharmacien par exemple me disait l'autre jour qu'avec la fonte des glaces, il y allait y avoir tout un tas de virus comme ça qui allaient se libérer. Vous voyez, il y a des hypothèses et des scénarios qui sont vraiment, qui font peur, quoi. Et j'en profite que vous êtes médecin et que vous connaissez un peu tout ça, pour, en tout cas, que vous êtes tout de même près de gens qui, comme le professeur Raoul, qui doit évoquer de temps en temps toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a à craindre pour l'avenir, ou est-ce que ça va s'arrêter à un moment, là, comme le dit le président Macron, dans 6 mois, quand un vaccin va arriver? Parce que je vais vous poser évidemment cette question sur le vaccin. Hein.
Alors, je pense qu'il n'y a personne ne peut dire à l'heure actuelle combien de temps va durer ce virus, s'il va perdurer pendant des années ou non. Personne, quel que soit le spécialiste en virologie, personne ne peut le dire. La seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est s'adapter à lui. Après, de là à savoir quand il y aura un vaccin pour lui, j'ai lu récemment un article où il parlait de début 2021 pour des premiers essais sur l'homme de vaccin. Donc à voir si ça marche. Après, s'il venait à avoir un vaccin, la question, ce serait de l'utiliser notamment peut-être chez les personnes jeunes, plutôt que chez les personnes âgées, parce qu'on se rend compte que les personnes âgées ont moins de capacité à réagir au vaccin et à s'immuniser finalement. Alors que les personnes jeunes, qui elles ont un meilleur système immunitaire, pourraient mieux s'immuniser et donc, si elles sont en contact avec le virus, ne pas le contracter et ne pas le transmettre aux personnes âgées. C'est un petit peu cette théorie qui pourrait être utilisée. Après, voilà, ce serait plutôt 2021, d'après ce que j'ai compris.
2021, on parle d'un
Oui.
vaccin d'ici, ouais, avant l'été. Vous, ça vous semble possible avant l'été?
Ah oui, là vraiment, c'était assez une théorie qui paraît de plus en plus probable, oui, qu'il y ait ce
Et donc,
vaccin.
c'est au médecin que je m'adresse encore une fois de plus.
Oui.
Est-ce qu'il est bien raisonnable de se vacciner? Parce que on entend déjà tout autour des personnes qui ne veulent pas se vacciner. Alors que Jean-François me dit en régie que en Chine, on se vaccine, paraît-il, déjà beaucoup. Est-ce que c'est vrai?
Alors, je ne sais pas comment, par rapport au coronavirus en Chine, déjà, ils
Oui,
commencent
oui.
à se vacciner. Ça, je ne sais pas. Ce que je peux dire, en tout cas, sur la vaccination, c'est que c'est quelque chose sur lequel on a quand même beaucoup de recul. Il y a eu beaucoup de, comment dire, de mauvaise compréhension entre la population et les scientifiques, notamment depuis l'histoire du vaccin de l'hépatite B, qui a créé un fond de controverse qui était la faute vraiment des scientifiques. Hein. Ils n'ont pas du tout été clairs dans leurs explications. Ils ont créé un sentiment de peur. Et c'est ça qui a fait monter finalement le scepticisme vis-à-vis des vaccins. Mais c'est quelque chose qui est vraiment fondamental parce que on le voit par exemple pour la grippe. Là, il va avoir bientôt le début de vaccination pour la grippe. J'appelle vraiment toutes les personnes à se vacciner contre la grippe, surtout si elles ont donc des facteurs de risque, l'âge, l'obésité, des choses comme ça. Et surtout, voilà, parce que c'est quelque chose qui est important. Et les personnes aussi qui sont en contact avec ces gens-là peuvent aussi se vacciner. Moi, je sais que je vais me vacciner parce que je vais être en contact avec des personnes fragiles et je pourrais potentiellement transmettre ce virus. Voilà, je ne dis pas ça en culpabilisant, bien sûr, parce que je trouve que le gouvernement a quand même, ces dernières semaines, eu trop tendance à mettre un peu la pression sur la population en disant il faut faire comme ça et pas autrement. Si vous allez voir votre famille, vous allez les contaminer. Moi, j'aime pas du tout culpabiliser les gens. Je pense qu'il faut plutôt leur expliquer pourquoi c'est utile, mais ne pas leur imposer. Après, il faut une liberté individuelle, mais c'est important, voilà, d'expliquer les choses pour que comme ça elles soient mieux comprises et adaptées et mises en pratique.
Très bien, donc on pourra tout de même aller se vacciner quand ce vaccin sortira
Ah ben
pour vous.
oui, et je pense que ce serait bien que les personnes jeunes, le jour où il sera mis en pratique, se vaccinent. Parce que justement, elles pourront protéger leurs aînés et éviter justement qu'il y ait des complications pulmonaires chez elles.
Très bien. Donc, le moral des troupes est plutôt bonne, en tout cas là-bas, à la Timone de Marseille. Vous sentez tout de même que le personnel soignant est prêt dans cette nouvelle disposition, dans tout ce que vous avez installé, de ce que vous m'expliquez en début de témoignage. Il n'y a pas une crainte d'être débordé là, d'ici quelques semaines?
La crainte, en fait, elle est plus au niveau des effectifs. Parce que, comme je disais au début, beaucoup d'infirmières, de soignants, parfois même des internes, hein, qui sont à bout d'avoir enchaîné ces deux crises, ont tendance parfois à se reconvertir, à changer de métier. Et c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que je me dis, est-ce qu'il ne va pas avoir finalement une carence en personnel sur les prochaines semaines parce que certains termes vont s'arrêter? Est-ce qu'il y aura assez d'étudiants qui arrivent par les écoles pour remplacer ces personnes qui s'en vont? C'est un peu ça la crainte, je pense, au niveau de. Parce que les machines, on les a, les locaux, on les a, mais c'est vraiment le personnel qu'il va falloir avoir. Et je ne suis pas sûr qu'on l'ait à la proportion de la crise, en fait. C'est ça le problème.
Merci mille fois en tout cas, voilà. Hugo, de nous
c'est
avoir.
C'est moi qui vous remercie.
Mais non, c'est nous, parce qu'on se pose plein de questions et que
c'est un plaisir.
C'est assez rassurant d'avoir l'avis d'un médecin et de quelqu'un qui est au contact permanent de ce virus, des malades. Et c'est assez rassurant de vous entendre tout de même. Courage
bien,
à vous, Hugo,
et
courage à
bonne
tous
soirée.
Vos collaborateurs
et
bonne soirée à vous. Au revoir.
Merci, au revoir.